Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, vous permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail. Bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Aujourd'hui, nous recevons Maggie Paquette, qui est technicienne en horticulture. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation.
Allô!
Et je suis accompagnée de ma collègue Natacia.
Allô! D'entrée de jeu, là, on peut y aller déjà avec la première question. On aimerait savoir là, en quoi consiste ton métier, spécifiquement un peu la vision des autres versus concrètement ce que tu fais là, au jour le jour.
Je peux commencer avec la vision des autres. Je crois que souvent les gens qui sont comme pas dans le domaine vont avoir des petites lunettes roses un peu sur le métier que je fais. Croient un peu qu'on vit en lenteur, puis qu'on marche pieds nus dans les champs, puis qu'on cultive un peu, puis qu'on profite du soleil. C'est comme un peu la vision que j'ai des autres. Tandis que ce que je fais, au final, c'est vraiment produire des légumes, travailler en fonction des conditions météorologiques, vraiment travailler super physique aussi, d'apporter tous les soins nécessaires, dans le fond, à nos petits plants pour finir puis arriver avec des récoltes à la fin et nourrir un peu la population, notre entourage, puis essayer de faire des petits circuits courts. Tu sais, c'est pas faux qu'on vit d'une certaine lenteur puis qu'on travaille au rythme quand même des cultures, mais l'été, les cultures, ils croissent rapidement. Fait que, tu sais, on travaille rapidement puis c'est plus à l'automne puis au printemps que là, on vient chercher notre lenteur. C'est un métier, je pense, qui demande une passion vraiment sincère. Puis chaque journée est remplie de beaux petits défis. Mais c'est ça, en gros, c'est vraiment de la production de légumes. Moi, je préfère le bio, mais ça peut être au niveau conventionnel aussi.
En termes de journée type, ça ressemble à quoi? Mettons, tu rentres travailler à quelle heure? Comment ça se déroule ta journée? Puis, est-ce que il y a des défis quotidiens que tu rencontres?
Je dirais que ça dépend vraiment beaucoup de la ferme à laquelle tu travailles. Principalement, les journées, on commence ça vers 8 heures. Selon, ça peut être 7 heures aussi. Puis selon, encore là, la météo, ça peut être un peu plus tôt. Mais si on se fie au général, là, vers 8 heures, on est à la ferme. On se fait une petite réunion d'équipe pour essayer de cibler ce qu'on veut vraiment faire aujourd'hui, le plan de match, les priorités. Fait qu'on va parler aussi des journées précédentes, des fois des livraisons, mettons, qui sont arrivées la veille. Essayer de se dire, hey, ça a vraiment bien été, bravo, s'encourager ou dire, hey, on a eu ce gros défi-là hier, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Puis essayer de communiquer un peu, puis aller chercher des petites solutions, en fait, qu'on n'aurait pas pensé toute seule. Fait que ça, c'est vraiment comme un genre de meeting, de se remettre à jour un peu sur tout, puis de préparer la journée. Puis je dirais que la journée type va vraiment évoluer selon le moment de la saison. C'est au début, à l'automne, je veux dire au printemps, ça va être des semis, ça va être beaucoup à l'intérieur, ça va être de l'installation d'équipements dans les serres. On va travailler pour que tout soit prêt, pour qu'au moment où ce qu'on implante les cultures, tout soit déjà justement prêt, puis qu'on soit déjà parti. Après ça, on va commencer à faire de la transplantation dans les champs, préparer les planches aussi quand la température le permet. Vient l'entretien des cultures, beaucoup de désherbage, beaucoup de fertilisation. On vient ficeler aussi les cultures plus ça grandit. Puis finalement, arrive le moment des récoltes. Je dirais que c'est la plus grosse part quand même de notre travail. Puis je pense que c'est ce qui nous rend le plus heureux là, de faire les récoltes parce qu'on a travaillé et on a investi tout notre temps pour arriver à ça. Puis après ça, vient on désinstalle tous les équipements puis on vide les champs le plus possible. Fait que si je parle vraiment du plus gros qui est la récolte, on essaie de les faire le plus tôt le matin pour que les températures, en fait, viennent pas affecter la conservation. Parce que plus il fait chaud, plus les légumes ont de la difficulté à venir rechercher comme leur froid. Fait que ça peut vraiment jouer sur leur conservation. Fait que le plus tôt possible, on fait ça. Même chose aussi pour les entretiens en serre. On essaie de le faire tôt le matin parce que sinon la chaleur devient quand même assez accablante. Là, tu sais, des 35-40 dans une serre humide, là, ça peut rapidement s'atteindre. Donc, on priorise ça en matinée. Puis en après-midi, ça va être souvent de l'entretien de culture en champ ou du désherbage. Mais enfin, pour s'avancer selon ce qui est en priorité. Puis au niveau des défis quotidiens, La météo, vraiment, c'est comme le plus gros défi qu'on a. Ça peut venir chambouler comme un plan de match là, assez rapidement. Et je pense juste à cet été, on installait des genres de petits tunnels en plastique sur des cultures de melon. Vu que c'est une culture qui demande beaucoup de chaleur, il faut installer des petits plastiques. Ça fait comme un petit effet de serre. Il faisait beau soleil, on installait ça. Puis en 5 minutes, on a eu la pire orage de toute notre vie. On avait de l'eau jusqu'à mi-mollet. Fait qu'il fallait comme juste continuer là-dedans puis gérer ça parce qu'il fallait que ça se fasse avant la fin de la journée. Fait que tu sais, c'est des petits défis, ben des gros défis comme ça qui peuvent arriver de jour en jour. Puis aussi au niveau des insectes puis des maladies, que ça, c'est des défis qui arrivent puis que tu sais jamais quand ils vont arriver, en quelle proportion aussi, quel type d'insectes. Tu sais, d'année en année, on a des nouveaux insectes qui arrivent à cause des changements climatiques aussi. Fait que, tu sais, c'est des nouveaux défis qui arrivent qu'on n'a jamais eu à gérer. Fait que, je dirais à ce niveau-là. Même chose pour les maladies, là, des fois, une saison hyper sec va amener certaines maladies. La saison d'après, ça va être hyper humide, ça va être d'autres types de maladies. Fait qu'il faut s'informer continuellement puis travailler continuellement pour arranger ces défis-là, puis essayer d'avoir des belles cultures avec des défis que tu n'as jamais eus.
Donc, ça demande une grande capacité d'adaptation autant sur le climat que les enjeux qui peuvent avoir une répercussion, un impact sur la production, là, parce que s'il y a une maladie quelconque ou un insecte, ben ça peut ravager une récolte au complet, là.
Effectivement, ça demande aussi, je pense, une capacité d'adaptation au niveau climatique. Là, tu sais, ton corps, faut que tu gères le fait qu'aujourd'hui, il va faire 30 degrés, puis demain, il va pleuvoir, mais tu vas devoir faire la même job, tu vas devoir être à l'extérieur pareil, puis il faut être vraiment résilient, je pense, c'est un des mots à retenir.
Tantôt, tu parlais un peu qu'au gré des saisons, l'horaire était changeant, ou du moins les tâches. Est-ce que tu es capable de dire un peu le nombre d'heures que tu fais, puis est-ce que tu fais des heures supplémentaires, là, par exemple l'été?
En général, on fait du 5 jours semaine. On va y aller du lundi au vendredi. On essaie d'avoir toujours nos fins de semaine de congé, dépendamment si c'est toi le propriétaire ou pas de la ferme, mais moi, c'est pas mon cas. Fait que je dirais, je vais parler pour un employé. Fait que du lundi au vendredi, fin de semaine de congé. On essaie de faire un 8 heures par jour avec 1 heure de pause, donc environ un 9 heures par jour. De 8 heures à 5 heures, en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais sur d'autres fermes où j'ai travaillé, c'était plus de 7 à 4. Puis dans des moments de grosses, grosses canicules, là, y a des fermes où ce qui commence à 4 ou 5 heures du matin pour finir vraiment plus tôt en après-midi pour éviter les grosses chaleurs de l'après-midi. Mais tu sais, ça, c'est vraiment du cas par cas, puis selon les météos, ben la météo. Il y a toujours quelque chose à faire sur une ferme, là. Il n'y a jamais de moment où ce qu'on dit, ah bon Dieu, on a tout fini, on s'en va à la maison. T'sais, fait que c'est vraiment possible de faire des heures supplémentaires si tu veux. Où j'étais cet été, on avait une limite de 10 heures par jour pour avoir une qualité de vie aussi à un certain moment parce que on pourrait rester là des heures et des heures et des heures et toujours travailler, mais il faut s'imposer une limite puis se dire, t'sais, ce qui n'a pas été fait, on va le faire demain, puis on va avancer pareil, puis on n'est pas obligé de tout faire à la perfection non plus. T'sais, faut se donner une certaine latitude, puis justement, avoir une qualité de vie, puis se permettre de faire des choses le soir aussi quand tu arrives à la maison, puis pas juste manger puis te coucher. Fait que je dirais qu'une semaine normale va varier entre 40, 45. T'sais, des grosses, grosses semaines, ça peut monter à 50, mais t'sais, moi, cet été, j'ai jamais fait du 50 heures semaine. Fait que c'est vraiment entre 40 et 45.
Donc, quand même des semaines bien remplies, mais ce que je comprends, c'est d'être capable aussi de se respecter pour avoir un horaire qui correspond à ce qu'on a besoin, puis à ce qu'on a besoin aussi en repos, là. J'imagine, vu qu'il y a toujours des choses à faire, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut être capable de s'arrêter, puis justement avoir cette force-là de se dire, on continuera demain.
Exact. C'est vraiment important de le faire aussi parce que c'est un métier qui est vraiment exigeant. Autant, je pense, mentalement que physiquement par rapport aux défis qu'on a d'adaptation. Fait que de se permettre des temps d'arrêt, puis même juste des avant-midi. Tu sais, ça m'est arrivé de prendre des avant-midi de congé, puis de me dire, ben aujourd'hui, c'est du temps pour moi. Ou une journée complète de me dire, ben vendredi, je travaille pas. Puis tu sais, souvent, les fermes sont quand même ouvertes à ça parce qu'ils savent qu'on fait beaucoup d'heures puis qu'on se dédie quand même à leur entreprise. Fait qu'ils sont souvent très reconnaissants puis ils vont nous la donner notre journée de congé si on leur dit d'avance, là. Puis on s'organise autour de ça. Puis la semaine d'après, on reprend ce qui a été mis un peu de côté.
Puis, en termes de tâches, on a parlé, ben, tu as parlé un petit peu des tâches là, que tu faisais à l'extérieur, un peu en serre aussi. Ce serait quoi, mettons, la proportion de tâches qui se fait à l'intérieur versus à l'extérieur? Puis, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples?
Au niveau proportion, je dirais c'est peut-être un 90-10, 90 extérieur, 10% intérieur. Ça va jouer beaucoup par rapport à la météo, là, les choses qu'on va avoir à faire à l'intérieur. Moi, les fermes où j'ai travaillé, c'était des entreprises où on offrait des paniers de légumes, en fait, à chaque semaine à des abonnés. Donc, il y a beaucoup de portionnage à faire quand même, comme des petites quantités de certains légumes. Moi, je faisais des pousses de tournesol, il fallait les ensacher, les peser. Fait que ça se fait à l'intérieur. La gestion de la chambre froide aussi. Souvent, tu sais, il va y avoir nos bacs identifiés avec les récoltes. Bien, on va essayer d'organiser ça selon les dates qui ont été récoltées, qu'est-ce qu'on veut passer avant, qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre aussi, de l'installation de palettes, de dire, bon, demain, on a la livraison à Québec, c'est ça qui part pour la livraison. Après, demain, c'est à la ferme, ça va être ça. Fait que c'est de l'organisation beaucoup dans les chambres froides. C'est pas, c'est à l'intérieur, mais il faut que tu mettes ton côte d'hiver pareil parce qu'il fait vraiment froid. Fait que c'est intérieur, mais extérieur dans un autre sens. Au niveau des semis aussi, en début de saison, à l'intérieur, sans problème aussi. Moi, personnellement, je trouve que des travaux de serre et des travaux en tunnel, chenille, c'est comme à l'intérieur parce qu'on est comme à l'abri des intempéries. Fait que moi, je le considère comme intérieur. Je ne sais pas si tout le monde le considérerait comme ça. Peut-être qu'à ce niveau-là, si je me dis que serre et tunnel est aussi à l'intérieur, ça serait peut-être plus un 70-30 de bord. Puis il y a le conditionnement, c'est-à-dire le lavage des légumes puis tout ce qui est lavage de bac aussi. Ça se fait pas à l'intérieur, mais c'est souvent sous un abri. Là. Fait que, on est s'il pleut ou quoi que ce soit, on va être sec, ben, on lave des légumes. Fait qu'on va être comme un peu mouillé, là, mais au moins on est à l'abri de la pluie.
J'imagine que vous devez utiliser de la machinerie ou de l'équipement particulier. Est-ce que tu veux nous en parler de ce que tu as été appelé à manipuler là, dans le cadre de tes emplois?
Bien sûr. Les fermes où j'ai travaillé, c'était des petites fermes avec des petites surfaces. Il y a des fermes qui préfèrent peu utiliser de machinerie, là, c'est presque pas, tandis que d'autres vont venir en utiliser pour faciliter certaines tâches. Ça dépend énormément de la ferme où tu travailles. En général, il y a toujours un tracteur sur une ferme, là, c'est comme la base pour préparer les planches ou faire de l'entretien ou juste tirer certaines machineries, là, parce qu'il y a des choses vraiment lourdes qu'on... On est bien fort, là, mais il y a des limites à notre capacité physique aussi. Fait que je dirais que le tracteur vient comme prendre une place quand même centrale à la ferme. Sinon, il y a les outils de désherbage manuel. Il y a beaucoup de désherbage qui va se faire à la main, à quatre pattes dans le champ, parce que ça prend une certaine minutie. T'sais, je pense aux carottes qui sont super petites avec les petites mauvaises herbes à côté. Ça peut pas se faire mécaniquement. Fait que, soit on va le faire manuel, mais il y a d'autres désherbages qu'on va essayer d'aller chercher une meilleure posture, un peu plus ergonomique. Ça s'appelle une binette, en fait. C'est comme une petite lame qui oscille au bout d'un bâton. Fait qu'on est debout, puis on vient comme juste, en fond, couper les racines de mauvaises herbes debout. Fait que, c'est plus sain, je pense, pour le corps que de passer la journée complète à quatre pattes. Puis ça se fait plus rapidement aussi. Fait que c'est venir comme s'aider en quelque sorte. Fait que cet outil-là, c'est vraiment un des outils qu'on va utiliser presque à tous les jours à la ferme. Moi, j'ai été amenée à travailler avec le pyrodésherbeur cet été. Ça m'a vraiment impressionnée. C'est un outil, en fait, tu as comme une bonbonne de propane dans le dos qui est attachée, qui est reliée avec une petite flamme, là. Puis tu viens passer par-dessus les planches de culture quand ils n'ont pas encore germé, en fait. Tu viens passer avec ça. Fait que la chaleur va venir faire éclater les cellules de la mauvaise herbe, puis ça va la faire mourir. Ça ne vient pas brûler la plante, ça vient vraiment juste comme faire chauffer tellement la cellule qu'elle va éclater. Fait que c'est pas, on brûle pas les plantes, on vient comme les déshydrater dans un certain sens. Fait que c'est ça, c'est hyper impressionnant. Là, ça fait un gros bruit, comme si j'étais avec un jet. Là. Fait que là, je passe sur les planches, mais tu sais, c'est full, comment dire, c'est homemade, là, vraiment. Là. Mais c'est des petits outils comme ça qu'on essaie de développer pour s'aider au niveau du désherbage. Fait que je dirais ça, c'est le gros des outils que moi, j'ai utilisés. Il y a des petits tracteurs aussi qui vont être pris pour le désherbage, mais c'est pas toutes les fermes qui les possèdent. Là.
Dans ton travail, avec qui tu es amené à collaborer, que ce soit au quotidien ou pas nécessairement tous les jours, là, mais avec qui tu es amené à collaborer?
Principalement l'équipe à la ferme, mes collègues, beaucoup, toutes les journées, on va travailler ensemble. Fait que je dirais que ça, c'est la grosse majorité des gens avec qui je travaille. Sinon, les fermes aux alentours aussi, on va essayer de rester en contact. Puis c'est vraiment beau à voir quand même l'entraide qui est faite entre les différents producteurs. Souvent, il y en a qui vont produire des choses que nous, on ne produit pas. Fait que d'aller acheter des produits ou des fois, c'est faire du troc, d'échanger des affaires pour permettre à nous, nos abonnés, d'avoir plus de variété, en fait, dans leur panier. Fait qu'on essaie comme de travailler comme ça. Puis c'est justement, tu sais, on s'entraide puis nos abonnés en sont récompensés. Fait qu'on va essayer de travailler de cette manière-là avec les autres producteurs. Puis pas nécessairement les voir comme des compétiteurs, mais plus comme vraiment une grosse équipe. C'est ça qui est beau, je pense, en agriculture, de pas les voir comme des compétiteurs. Puis les abonnés aussi, là, on les voit une fois semaine, sont tellement contents de nous voir, sont contents de comprendre d'où ce que leurs légumes viennent aussi. Puis on leur parle aussi des défis qu'on a eus pendant la semaine, de comme « Hey, ça a été dur cette semaine » ou « Il a fait chaud ». Puis tu sais, même eux, ils ont eu chaud puis ils nous imaginent avoir eu chaud avec leurs légumes. T'sais. Fait que c'est beau, je pense, de leur montrer que c'est humain puis de où ce que ça vient en fait, là, puis le travail qu'il y a eu derrière ça.
Puis, est-ce que tu considères que les tâches sont davantage liées au travail d'équipe ou individuel? Si tu avais à mettre une proportion sur chaque, là?
Je crois que ça dépend beaucoup des fermes où tu travailles. Je pense à la ferme où j'étais l'année passée, aux Petits Oignons. C'était une grosse ferme quand même. On faisait 900 paniers semaine, puis on était une équipe de 25 employés. Fait que, tu sais, il y a peu de tâches qui se font solo parce que les tâches sont quand même plus grosses vu qu'il y a plus de volume de panier. Tandis que cet été, il y avait quand même beaucoup de tâches que je pouvais faire solo puis il n'y avait pas de problème. Fait que ça va beaucoup changer selon la grosseur de la ferme. Mais en général, on essaie de faire les tâches en équipe parce que c'est des tâches qui sont répétitives souvent. Fait qu'on essaie de mettre de la musique, de la bonne humeur puis du plaisir dans ce qu'on va avoir à faire vu que c'est répétitif. Puis en équipe, souvent, c'est comme plus motivant de les faire. Mais il y a des petites tâches qu'on va venir faire solo aussi. Moi, j'avais un petit projet de faire des micro-pousses de tournesol cet été. Puis ça, c'était comme mon moment à moi où j'allais faire mes petites choses avec ma petite musique à moi. Puis ça me faisait du bien d'être dans mes petites affaires. Puis parfois, on va venir faire des tâches en équipe, mais on est comme pas amené beaucoup à parler. Tu sais, quand on vient travailler sur les tomates en serre, on est chacun comme un peu de notre bord. On a comme la tête d'un plan. Fait qu'on peut se parler, mais on se voit pas. Mais tu sais, on sait qu'on est avec quelqu'un quand même. Mais on est quand même concentré sur notre tâche. Fait que tu sais, c'est en équipe, mais quand même, t'es dans ta tête parce qu'il faut que t'ailles une certaine minutie puis une concentration. Fait que tu sais, je pense que c'est un beau mix des deux. Je dirais un bon... ça peut être 50-50, je dirais, selon les fermes où tu travailles.
Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a amené une question, en fait. Je me demandais... En général, est-ce que les gens retournent sur la même ferme ou au même endroit d'été en été? Ou, parce que tu disais que tu avais fait plusieurs endroits, là, ou en général, ça bouge? Est-ce que les gens changent de place? Comment ça se passe d'année en année?
Je crois que ça dépend du poste que tu as à la ferme. Moi, j'ai été amenée à travailler sur plusieurs fermes parce que je trouvais ça le fun de voir différents modèles, parce que chaque ferme est différente, chaque ferme a ses particularités, puis moi, je trouve ça bien de voir tout ça. Parce qu'un jour, j'ai envie d'avoir ma ferme. Fait que je me dis, si je vois ce que j'aime pas, ça me permet de mieux comme évaluer ce que moi, je veux faire. Et il y a des gens pour qui, eux, c'est pas un désir de justement avoir leur ferme puis de rester à la même place, avoir une stabilité, pas avoir à réapprendre justement sur chaque mode d'opération de chaque ferme. Ils aiment ça. Fait qu'eux autres, ils restent vraiment là. Par rapport à comme mon entourage, des amis que j'ai dans ce domaine-là, on va venir beaucoup à changer puis à découvrir. Ça nous permet aussi d'habiter un peu partout au Québec. Là, t'sais, j'ai habité dans Laurentides, j'ai habité sur la Rive-Sud, j'ai habité à Québec. Fait que, t'sais, ça permet de voyager au sein du Québec puis de découvrir comme des nouvelles jobs. Fait que, je pense que c'est vraiment ça qui nous permet de rester un peu dans le domaine, c'est de voyager puis de découvrir.
Mais je me demandais en fait en termes de travail, parce que j'imagine que c'est plus un travail saisonnier. Comment ça se passe en général, l'horaire sur une année? Dans le fond, est-ce que vous travaillez du printemps à l'automne, l'hiver, c'est comme sur pause? Comment ça se passe?
Oui, un peu comme tu viens de dire, en général, on va commencer au mois d'avril-mai, puis ça va se finir vers octobre-novembre, dépendamment des fermes. Fait que c'est pas mal ça la saison de travail. Puis l'hiver, la plupart des fermes là, sont en pause. Ça dépend des fermes, encore là. Je repense aux Petits Oignons, qui est une grosse entreprise. Eux, à partir de maintenant, puis même un peu avant, là, on est au mois de février, je pense, depuis mi-janvier, là, qu'ils sont de retour, puis qu'ils font des semis dans les serres, ils font de l'entretien, ils vont venir planter le gingembre. C'est plein de cultures qu'eux, ils sont capables de faire un peu plus à l'année, vu qu'ils ont un peu plus d'argent, je pense aussi, là, à ce niveau-là, plus d'installation d'année en année, là, tu sais, veux pas, des cultures diverses, c'est plus demandant monétairement. Fait que faut avoir quand même la possibilité de le faire. Fait que selon les entreprises, c'est possible d'avoir un travail un peu plus à l'année, mais c'est plutôt rare. Donc, faut s'attendre à faire des emplois saisonniers puis de changer de travail. Je pense à mon amie qui, elle travaille en acériculture, c'est-à-dire elle entaille les érables là, actuellement pendant la saison comme plus morte d'agriculture, puis elle va switcher. Et avant de revenir à l'agriculture par la suite.
Puis, dans un autre ordre d'idée, à quoi ça ressemble ton parcours scolaire et professionnel?
Au niveau scolaire, là, je suis partie mêlée, moi, là. Fait que j'ai commencé en sciences humaines, j'ai fait un an, puis je me retrouvais vraiment pas là, dans ce domaine-là. Je comprenais pas trop ce que je faisais. C'était juste comme une continuité au secondaire, puis j'avais pas de plaisir vraiment. Fait que j'ai décidé d'aller faire un an et demi dans une technique en ébénisterie artisanale. Encore là, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai appris à cet endroit-là, mais je me voyais pas trop faire ce métier-là à l'année. C'est un métier où ce que tu dois être à l'intérieur, beaucoup de poussière, beaucoup de bruit aussi. Fait que c'était comme moi ce que je désirais faire. C'est là que je me suis dit, ben mon Dieu, pourquoi pas aller étudier en horticulture. Je me suis dit, c'est avec les plantes, on travaille dehors. Je me suis dit, mais il me semble que ça a l'air de quelque chose que j'aimerais bien faire, moi. Fait que je suis partie de Québec vers la Pocatière, toute seule, comme une grande. Je suis allée étudier pendant 3 ans là-bas. Puis je suis diplômée là, tout nouvellement là, en 2021, j'ai eu mon diplôme.
Puis au niveau des emplois, ben t'en as parlé un petit peu, tu sais, notamment en horticulture, est-ce que ça a été toujours des fermes qui se ressemblaient ou les cultures étaient relativement différentes? Là, tu sais, t'as dit que t'aimais apprendre différentes cultures, tout ça. Donc professionnellement, t'as été appelée à varier un petit peu.
Oui, le premier emploi que j'ai eu en agriculture, c'était sur une ferme conventionnelle. Quand je dis conventionnelle, c'est que c'est pas biologique. C'était sur l'île d'Orléans, à Québec, là, dans le fond. J'étais la seule femme, employée à travailler là et en très minorité là, québécoise. Je travaillais juste avec des Mexicains, donc grosse barrière au niveau de la langue, on se comprenait absolument pas. Puis c'était comme énorme comme ferme. Les installations étaient immenses. C'était vraiment plus production industrielle, un peu plus là, que ce que je connais moi de l'agriculture. Fait que c'est ça, c'était mon entrée au niveau agricole. Ça m'a quand même refroidi un peu, là, je dirais. Je trouvais ça spécial quand même comme type d'agriculture. Je me disais, je pense que c'est pas tout comme ça. On était dans des champs de brocolis, là, à perte de vue. Moi, j'étais sur un gros tracteur. Il y avait comme 10 Mexicains en avant de moi qui coupaient des brocolis, qui mettaient ça sur un convoyeur. Moi, je prenais les brocolis sur le tracteur. Il y avait des machines pour venir mettre les élastiques. Puis en arrière de moi, il y avait un gars qui venait paqueter ça dans des boîtes. Puis il y avait deux remorques qui entreposaient les boîtes qu'on venait de récolter. Fait que, tu sais, c'était une chaîne énorme, là. C'était vraiment impressionnant. Mais je me suis posé la question à savoir si c'est vraiment ce que je voulais faire au niveau agricole. Puis clairement, c'est pas ce que je voulais. Je me retrouvais un peu moins là-dedans. Fait que là, avec l'école, moi, les expériences que j'ai au final, c'est pendant mes étés off, là. T'sais, moi, je me disais, crime, j'ai appris plein de choses à l'école. Je veux remettre ça comme plus en pratique. Fait que c'est là que je suis allée chercher un peu plus d'expérience. Première ferme que je dirais plus à mon image, c'est-à-dire une petite ferme bio un peu plus à échelle humaine, c'était à la Coulée-Douce qui est sur la rive sud de Québec. On était environ 7 employés, dont le propriétaire, là, mais les 5, 6 personnes qui étaient là, c'était notre première année vraiment au niveau agricole sur une petite ferme. Fait qu'on était tout un peu de base là, ensemble, puis on a full appris. Le propriétaire, il était tellement fin, puis toujours là pour nous apprendre, puis nous montrer des choses. T'sais, souvent, c'est ça qui est beau en agriculture, c'est que les gens sont vraiment prêts à nous donner leur savoir. Puis c'est pas des gens qui gardent ça pour soi, puis qui se disent, oh non, si je le monte, ça va être des compétiteurs. Au contraire, c'est comme vraiment, c'est du beau partage. Fait que c'est un peu là que je suis tombée en amour avec ce type d'agriculture-là qui est plus à échelle humaine. Ensuite de ça, je suis allée travailler aux petits oignons dans les Laurentides, qui est quand même un pionnier au niveau des fermes maraîchères. C'est deux agronomes qui ont parti ça, donc c'est vraiment c'est reconnu à plein au niveau du Québec là, pour plusieurs choses, surtout pour leur type de gestion aussi. Fait que ça a été une belle expérience à ce niveau-là également. Et cet été, je travaillais à Deschambault, au jardin de la Chevrotière. On faisait 250 paniers par semaine. C'était une des plus petites fermes pour lesquelles j'ai travaillé. Mais ce qui était le fun, c'est que vu que j'avais fini ma technique, puis j'avais de l'expérience, j'avais beaucoup plus de responsabilités, puis je prenais un peu plus ma place aussi pendant les réunions. Tu sais, des fois, il y avait comme des questions qui étaient soulevées. Ben, je donnais mon opinion à ce niveau-là. Puis des fois, j'essayais comme de donner des idées, puis tout ça. Tu sais, on dirait que plus tu avances dans ce domaine-là, plus c'est facile de montrer son point de vue, puis plus les gens vont t'écouter aussi. T'sais, les gens sont toujours là à t'écouter quand même, mais des fois, il faut quand même que tu prennes ta place. Même, ils ont quand même leurs idées, puis c'est correct parce que c'est leur ferme aussi, mais c'est bien des fois d'amener la tienne, d'y croire, puis de leur faire croire que ça peut avoir du sens aussi.
Dans ce que tu partages au niveau de tes expériences de travail, c'est que c'est des gens de passion, des gens de cœur qui le font par motivation profonde et non pour le côté lucratif de on se met du poing sur la table. Au contraire, là, c'est des gens qui veulent partager, jouer un rôle de mentor aussi, là. Donc, c'est intéressant de voir ça.
C'est vraiment impressionnant. Puis je pense que c'est ce qu'on a besoin aussi en agriculture. Tu peux pas faire ce métier-là si tu n'as pas la passion. Je pense que c'est une des qualités à avoir, là, c'est vraiment la passion. Si tu ne l'as pas, ça va être dur de faire perdurer ton entreprise.
Dis-moi, au niveau des conditions physiques, quelqu'un qui voudrait se lancer là, dans ce domaine-là, y a-t-il des choses que tu dis, cette condition physique-là, c'est important, ou quelqu'un qui a telle limitation, ça peut être plus difficile?
Je dirais qu'en général, avoir une bonne forme physique, là, c'est quand même important. D'être capable de soulever des charges qui sont relativement lourdes, là, tu sais, les récoltes, c'est quand même exigeant, là, tu sais, des grosses caisses de carottes de 50 livres, on va en charrier beaucoup pendant une journée, là, de récolte. Fait que, tu sais, si au moins t'es pas capable, ben, de prendre des plus petites caisses, au pire, mais de savoir sa limite aussi, de bien se connaître au niveau physique puis de se respecter, mais d'avoir une bonne condition quand même. Les gens qui ont des problèmes de dos, ça peut être quand même exigeant parce que on va être amené justement, c'est ça, à soulever des charges, à être beaucoup à quatre pattes dans les champs. Fait que tu sais, faut quand même savoir qu'il y a ça. Sinon, d'avoir un petit souci du détail aussi, là, c'est de c'est pas au niveau physique, mais c'est quand même important de l'avoir. Une bonne tolérance à la chaleur aussi, là, c'est ou encore là, de se connaître puis d'amener son chapeau, d'avoir toujours son eau, savoir quand s'arrêter aussi. Tu sais, c'est oui, il y a le travail à faire, mais toi aussi, il faut que tu t'écoutes. Puis si tu n'es pas capable de le faire, prends-la la pause, puis après ça, tu vas revenir en force. Fait que, tu sais, c'est de savoir s'écouter aussi là, à ce niveau-là, puis avoir une bonne capacité d'adaptation.
Donc, ce que j'entends, c'est que dans ce métier-là, il y a beaucoup la notion de se connaître hein, soi-même, tu sais, de connaître ses limites, puis aussi de s'écouter pour pas dépasser ces limites-là qui, après ça, vont faire en sorte que ça va être encore plus difficile de faire le travail. Fait qu'il faut être capable de s'arrêter puis de s'écouter, là.
Effectivement. C'est pas toujours facile à faire, là. Je repense juste à moi, cet été, j'ai eu un torticolis. T'sais, j'ai appelé à la ferme pour leur dire, je pourrais pas rentrer aujourd'hui, j'ai de la misère à me lever de mon lit, là. Fait que, tu sais, je pourrais pas clairement faire ma journée. Puis là, deux jours après, moi, j'étais comme, OK, je vais revenir travailler, je suis correct. Puis, tu sais, mes boss étaient comme, non, tu continues à prendre du repos, tu reviendras la semaine prochaine, va voir ta physio, va voir ta massothérapeute, prends soin de toi, puis reviens me voir en force. Mais tu sais, c'est pas toujours facile, en tout cas pour moi qui est quelqu'un qui a toujours besoin comme de bouger puis d'être dans l'efficacité, j'étais comme, ben non, là, faut que j'y retourne, on va travailler, j'avais vraiment de la misère à rester chez moi, mais ça a été quand même une belle prise de conscience dans le fond de me dire, mon corps, c'est mon outil de travail. J'ai besoin de mon corps pour travailler. Fait qu'il faut que j'en prenne soin. Puis c'est important d'aller voir justement des physiothérapeutes pour essayer d'organiser un peu tous les petits bobos. Tu sais, je repense à des petits problèmes de poignet. Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, mais que si tu viens pas le régler tout de suite, ça va te suivre tout le reste de ta vie. Puis c'est ça qui va venir à la fin de ta carrière vraiment rendre ton travail plus difficile. C'est de s'écouter puis venir se réparer quand c'est le bon moment.
Puis ce que j'entends aussi, c'est que les propriétaires de ces fermes-là semblent quand même avoir le souci que leurs employés aillent bien, là, t'sais, parce qu'eux autres, dans le fond, si les employés vont pas bien physiquement, mais ils peuvent pas travailler non plus. Fait que c'est sûr que t'sais, de ce que tu disais aussi, on voit qu'ils ont vraiment un souci que leurs employés aillent bien aussi, puis qu'ils prennent le repos qu'ils ont besoin. Là.
Effectivement. On est comme une petite famille aussi, là, t'sais, c'est de prendre soin des autres au moment où ils ont besoin de prendre leur repos, ben de se dire, prends ton repos, on va prendre de la ferme sur notre aile. Moi, ma boss, elle s'est bloquée le dos en fin de saison. On était comme, ben prends du repos, on va prendre la ferme sur notre aile, puis ça va bien aller, tu sais, de vraiment prendre soin de nous, parce que c'est ça le plus important au final.
Puis, en termes d'intégration en emploi, une fois que vous êtes diplômé, tu sais, là, tu as fait ta technique en horticulture, là, après ça, tu es diplômée. Comment ça se passe, l'intégration en emploi?
C'est assez facile, là. Tu sais, je pense que la demande au niveau maraîchère, ouvrière maraîchère sur des fermes est assez présente, là. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais venir cibler les fermes où j'ai envie de travailler. Souvent, j'en choisis deux, trois. Je leur envoie CV, lettre de présentation. Puis, en général, les deux, trois fermes vont me réécrire. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de choix au niveau de ce que je veux, à quel endroit je veux travailler. Fait qu'à ce niveau-là, tu sais, on a vraiment une possibilité, là, de s'intégrer. Puis, au niveau de l'embauche, ça varie d'une ferme à l'autre. Il y en a qui vont, après la saison, là, tu sais, à l'automne, ils vont déjà commencer à afficher leur poste pour la saison d'après. Après, tandis qu'il y a d'autres qui attendent au mois de mars. Fait que, tu sais, ça va vraiment varier. Il faut juste rester informé selon les fermes qu'on a ciblées, ce qu'on veut faire, puis rester à l'affût, en fait, là, des postes qui vont s'afficher. Mais en général, c'est assez facile, là, de se trouver un emploi au niveau ouvrier maraîcher. Je sais qu'il y a aussi la possibilité d'être conseiller dans des groupes conseils aussi. Ça, c'est comme des clubs qui vont venir accompagner les producteurs de la région. Dans le fond, il y a des techniciens et des agronomes qui vont s'allier pour aller les rencontrer, pour, dans le fond, leur offrir soit du soutien, soit des conseils au niveau de leur production, améliorer leur rentabilité ou améliorer leurs pratiques au niveau que ce soit plus durable aussi, une agriculture plus durable. À ce niveau-là, je connais un peu moins comme la réalité. J'ai une amie qui travaille pour un club conseil qui, elle a eu la chance d'avoir un emploi comme technicienne, mais de moins en moins, les clubs conseils vont venir engager des techniciens parce qu'en fait, les techniciens vont venir faire toute la job qu'un agronome va faire, sauf que l'agronome va devoir repasser sur tout le travail que le technicien a fait pour ensuite le valider. Fait que c'est comme travailler en double souvent. Fait que de plus en plus, là, les gens vont plus engager des agronomes que des techniciens.
Donc, on a les fermes maraîchères. Tu as parlé là, des groupes conseils aussi, plus au niveau de l'agronomie. Y a-t-il d'autres milieux de travail dans lesquels tu n'as pas exploré, qui sont peut-être méconnus, mais qui pourraient être une perspective d'emploi pour des gens qui suivent la formation?
Les entreprises stéricoles, je pense, tu sais, aux gros complexes de serre, je pense à Savoura, en fait, là, qui sont des gros complexes. Il y a possibilité, en fait, de faire un emploi là, puis c'est beaucoup plus à l'année aussi. C'est sûr que c'est une culture seule. Tu vas faire des tomates, ça va être ça que tu vas faire. Il y a des gens pour qui c'est passionnant. Moi, un peu moins. J'aime ça, la diversité. Mais il y a vraiment possibilité d'aller chercher un emploi plus à l'année aussi là. Club conseil, les petites fermes. Il y a possibilité de partir sa propre entreprise aussi. Là. Tu sais, ça, c'est quand même une possibilité. Ou être prof aussi. Là. Tu sais, ça se peut qu'après que tu aies fait ça, tu as envie de montrer aux autres aussi, puis il y a possibilité là, de le faire.
Puis, toi, ta formation, tu l'as suivie vraiment plus au niveau horticulture. Est-ce que c'est une voie de spécialisation ou, tu sais, parce qu'il y a tout le domaine animal qu'on parle pas actuellement, parce que je pense que là, toi, t'as choisi la vocation plus légumes et maraîchers, mais quelqu'un qui voudrait là, aller plus au niveau animal, je pense qu'il y a possibilité de le faire via une autre concentration, là.
Oui, exact. Moi, c'était vraiment production horticole et environnement. Il y avait même deux voies dans mon programme, soit vraiment le volet maraîcher ou le volet environnemental. Une voie environnementale, c'était plus comme club conseil. Nous, c'était plus comme ouvrier maraîcher. Ça, c'était un seul programme. Il y avait un autre programme qui était justement production animale. Il y a d'autres programmes de gestion d'entreprise aussi, agricole. Fait que, tu sais, il y a plusieurs programmes qui vont t'apporter différentes choses aussi. Il y a plusieurs établissements aussi qui vont offrir des choses différentes. Moi, je suis allée à l'apocatière où c'est beaucoup plus une concentration qui est animale, même s'il y a le volet maraîcher aussi, mais je pense que c'est axé surtout sur l'animal. On a à Victo aussi très, très axé sur le bio. Donc, si jamais c'est quelque chose qui est intéressant, là, moi, je conseille d'aller là-bas, c'est super spécialisé. Il y a Saint-Hyacinthe aussi, qu'il y a d'autres programmes. Fait que, tu sais, il y a plusieurs établissements qui vont venir offrir différents programmes, des petites particularités, là, ça dépend vraiment de ce que tu veux.
Donc, c'est comme important de préciser un peu, tu sais, oui, le domaine agricole, mais outre ça, c'est important de préciser qu'est-ce que la personne préfère, puis dans quoi elle se voit, puis elle se projette au niveau du travail, là.
Ouais, effectivement, parce que ça va venir prendre des chemins extrêmement différents. Là, tu sais, ce que moi je fais, c'est une vision puis un quotidien extrêmement différent de quelqu'un qui va être sur une ferme laitière. Là, tu sais, c'est deux mondes séparés, même si c'est dans le gros monde agricole. Là. Fait que c'est de cibler ce que tu veux faire énormément.
Puis si tu avais à à identifier un élément, l'élément qui a fait en sorte que tu es allée dans ce domaine-là, ça serait quoi?
Moi, c'était l'attrait d'être dehors, là. C'est vraiment ça que je voulais. C'était un peu sur un coup de tête aussi, là. Je suis un peu une personne de coup de tête dans la vie, là. C'était plus comme on va essayer ça, puis mais ça me semble ça a l'air beau, puis donc ben le fun. Fait que travailler dehors. Fait que je pense que c'est surtout ça qui m'a vraiment amenée à aller dans ce domaine-là. Puis aussi, je pense que l'intérêt qu'il avait par rapport au fonctionnement des plantes, comprendre comment ça marche, ça. Qu'est-ce qui fait que ça pousse? Qu'est-ce qui fait que ça pousse pas? Si je leur donne telle affaire, ça ira pas bien. S'ils ont telle couleur, c'est parce qu'ils manquent de telle chose. Tu sais, c'est vraiment d'aller comprendre toutes les petites particularités. Tu sais, des plantes, ils te parlent sans te parler. Tu sais, il suffit de les observer puis tu vas comprendre ce qui manque. Fait que ça, je trouvais que c'était super intéressant de comprendre, en fait, comment que les plantes nous parlent puis qu'ils nous expriment ce qu'ils ont besoin.
À l'heure actuelle, qu'est-ce que tu apprécies le plus de ton travail?
C'est un métier vraiment valorisant puis noble, je pense. C'est beau, tu sais, de produire la nourriture pour ma communauté, pour les gens autour de moi. T'sais, je pense que c'est la base là, de tout, c'est s'alimenter de bons produits. C'est un métier qui va vraiment vite, puis il faut s'adapter en tout temps, mais ça nous permet quand même de vivre au rythme des saisons. Tu sais, l'hiver, c'est notre moment où ce qu'on est dans notre petit cocon, puis qu'on redescend sur terre un peu là, de notre saison, puis on se permet de prendre ça plus mollo. L'été, ça va vite, vite, vite. Il y a tout le temps 1000 choses à faire. Tu sais, moi, ma semaine de travail est faite le soir. Je m'en vais faire de l'escalade. Puis après ça, je reviens le lendemain. Tu sais, c'est vraiment de vivre à ce rythme-là, moi, que je trouve le plus passionnant. Tu sais, j'ai besoin de vivre vite. Fait que c'est ça que je trouve beau. Travailler avec le vivant aussi, c'est vraiment méditatif de s'occuper des plantes, de voir comment qui grandissent. Moi, on dirait que je garde toujours mon petit émerveillement d'un enfant de 4 ans, là, tu sais, quand que je vois des choses spéciales, tu sais, un cocombe qui, au lieu d'avoir fait une fleur, il a fait une grosse feuille au bout, tu sais, moi, j'y prends en photo, puis je suis comme, waouh, c'est impressionnant, tu sais, ils vont toujours faire des tu sais, la nature va être amenée à comme diverger, puis je trouve ça tellement beau d'être amenée à voir ça. Tu sais, je repense à cet été, on a trouvé comme un chou-fleur de 4 livres, il était énorme, tu sais, je l'ai trouvé dans le champ, puis je criais quasiment, tu sais, j'étais comme, viens voir le chou-fleur, tu sais, tout le monde est venu dans le champ, on capotait, on a fait un encan du chou-fleur, tu sais, c'est on est amené à jouer beaucoup, puis à avoir beaucoup de plaisir, je pense, au quotidien, fait que ça, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus aussi. Puis le fait que ça soit physique, j'aime ça travailler physique, j'aime ça pouvoir me dépenser, puis que ce soit au sein de mon travail, je trouve ça vraiment le fun aussi.
Puis, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir ou des choses qui t'ont surpris en arrivant sur le marché du travail?
Oui, beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir. C'est un métier super valorisant, mais qui est très peu valorisé, je dirais. Dans le sens où même si l'agriculture, c'est la base, les salaires vont être peu représentatifs, en fait, de l'importance de ce métier-là ou, en fait, des efforts qui ont été mis pour arriver à ça. Les légumes, c'est quelque chose qui... En tout cas, moi, dans mon domaine, les légumes, c'est quelque chose qui va peu augmenter. Le prix augmente peu, puis s'il augmente, les gens ont de la misère à accepter que des légumes aient des prix plus élevés. Fait que c'est dur de suivre l'inflation de la vie avec ça. Fait que c'est dur d'offrir des salaires qui sont avantageux. Je pense que pour que ce soit intéressant dans ce domaine-là, c'est soit d'avoir un poste de gestion, que ce soit au niveau de production en serre ou de production en champ, ou d'avoir sa propre ferme. Mais encore là, c'est beaucoup de dédication là, avoir sa ferme. Puis c'est quand même dur actuellement l'accès à la terre. Là, je peux en parler personnellement. Là, on a fait beaucoup d'offres puis de recherches, puis c'est extrêmement, extrêmement difficile. Puis pour des jeunes qui ont peu d'argent puis qui ont travaillé en agriculture, qui n'avaient pas des gros salaires, c'est vraiment dur d'avoir un accès à ce niveau-là. Fait que je pense que j'aurais aimé ça savoir ça. Pas que j'aurais pas fait ce métier-là parce que vraiment ça me remplit, ça me nourrit beaucoup, mais faut être au courant que ça peut être difficile à certains moments. Puis c'est un emploi qui est très très saisonnier aussi, tu sais, fait qu'il faut être prêt à changer de travail selon le moment de l'année.
T'en as un petit peu parlé tout au long de l'entrevue, de la discussion au niveau des qualités, mais si tu avais à faire un résumé là, de quelques principales qualités à avoir pour le métier, ça serait quoi?
Principalement la passion. C'est vraiment une des premières, je pense, que je nomme. D'adaptation aussi, autant au niveau de la météo, autant au niveau des défis qu'on peut avoir, autant au niveau aussi des personnes avec qui on va travailler. T'sais, on n'est pas amené à travailler avec toujours les mêmes personnes, les mêmes personnalités aussi. Avoir une bonne minutie, un souci du détail, surtout en serre, là, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Il y a des petites choses qu'on peut faire qui peuvent amener à ce que la maladie arrive dans les serres. Fait que, c'est vraiment important de prendre le temps de faire certaines choses avec minutie. Avoir une bonne communication aussi pour... on est amené à travailler dans une petite équipe, toujours ensemble. Nos problèmes personnels, veut pas, ça va venir être apporté à la ferme. Il faut être capable de s'en parler, de se dire « Hey, aujourd'hui, j'ai une grosse journée. » C'est pas nécessairement dire tout ce qui se passe dans ta vie, mais juste dire « J'ai une grosse journée, ça se peut que je réagisse de telle manière. Prenez-le pas personnel. Ou juste « Hey, il est arrivé telle chose hier. » Pas avoir peur de dire que tu as fait d'erreur. Fait que c'est vraiment la communication au sein de tout, c'est super important. L'organisation aussi, là, tu sais, une ferme, ça demande beaucoup d'organisation. Si tu prends tel outil à telle place, faut-il le reporter à tel endroit? Les bacs sont tous identifiés. Fait que, tu sais, d'avoir une bonne organisation, de toujours penser à comme, OK, j'ai fait telle affaire, s'ensuit telle tâche, de toujours repenser à tout ça.
Au niveau des valeurs, est-ce que tu serais capable de nous nommer des valeurs qui sont liées à ton travail, qui sont importantes pour toi?
L'entraide, beaucoup, la communauté, tu sais, je me rends compte de plus en plus que c'est un petit monde. Tout le monde se connaît un peu, tout le monde qui ont des petites fermes se connaissent, puis ils veulent connaître les fermes des autres. Fait qu'à ce niveau-là, l'aspect de communauté est vraiment présent. Le plaisir aussi au sein du travail, de l'apprentissage, de communiquer notre savoir, de se partager aussi, dans le fond, nos connaissances. La découverte. D'un peu tout, là, tu sais, à chaque saison a son lot de découvertes et de défis. Je dirais la discipline aussi, parce que c'est quand même un métier où on doit être là chaque matin, on doit avancer les choses, puis même si on est fatigué puis qu'on a moins envie, faut le faire, faut que ça avance, c'est important, parce que c'est nos récoltes, puis c'est la suite qui va en écoper si jamais on n'est pas discipliné à ce moment-là. Puis je dirais une certaine liberté aussi, tu sais, de travailler à l'extérieur, d'entendre les oiseaux qui chantent pendant que tu récoltes, tu sais, moi, en tout cas, ça m'apporte une très grosse liberté, en fait.
Puis, t'en as un petit peu parlé par rapport au rôle de gestion. Est-ce que il y a des possibilités d'avancement ou de promotion, tu sais, au fil des années, au fil de la carrière?
Oui, plus tu as d'années d'expérience, plus c'est facile d'avoir des augmentations de salaire aussi, puis plus c'est facile d'avoir des postes de gestion vu que tu as plus de connaissances. C'est vraiment possible de autant en serre, comme je disais, qu'en champ d'avoir ces postes-là. Encore là, ça va dépendre des fermes. Il y a des places où c'est pas vraiment possible parce qu'ils n'ont pas pas assez de monde pour que tu puisses monter dans les échelons, tandis qu'à d'autres entreprises, c'est possible, vu que c'est plus gros et qu'ils ont besoin de plus de monde pour faire de la gestion. Fait que je pense que ça va vraiment beaucoup dépendre du type d'entreprise que tu désires travailler pour.
Puis, tantôt, tu en as effleuré un petit peu le sujet par rapport au volet entrepreneurial, là, tu sais, de quelqu'un qui veut partir sa ferme, son entreprise. Au niveau de la formation, j'imagine qu'il y a des notions de gestion aussi qui sont apportées là, au fil des années.
Il y a des programmes qui sont vraiment seulement pour ça. C'est comme gestion d'entreprise agricole, il y en a, c'est directement ça que tu vas venir faire. Tandis que moi, dans mon programme, il y en a eu un peu, tu sais, j'ai fait un plan d'affaires, tu évoques un peu le projet que tu veux, tu trouves des gens qui peuvent t'aider, tu sais, tu viens beaucoup à aller chercher soit des sites web, soit vraiment des références que tu peux aller chercher comme plus d'informations au niveau de la gestion. Mais encore là, ça dépend du programme que tu vas choisir. Moi, je trouve que, personnellement, j'ai pas choisi le bon programme parce que j'aurais voulu avoir plus d'informations au niveau de la gestion. Mais j'en ai eu pareil, tu sais, j'ai fait beaucoup aussi au niveau économique, là, tu sais, de l'analyse économique, j'ai fait des budgets, tout ça. Fait que, tu sais, on vient voir ce volet-là aussi qui est quand même important. Moi, personnellement, je trouve que c'était pas assez poussé. J'aurais voulu en voir plus, mais c'est sûr, j'aurais pu prendre l'autre programme aussi, puis j'aurais vu tout ça là, en plus de voir ce que j'ai vu.
Mais au niveau de la formation gestion d'entreprise agricole, là, j'imagine que tout ce qui est technicalité au niveau de la production est moins présent dans le programme.
ça dépend où tu le prends. Okay. Quand tu le prends à l'apothicaire, c'est plus axé sur le volet animal, comme je disais, fait que tu en vois moins. Mais à Victo, c'est plus axé sur le bio puis le maraîchage. Puis là, tu vois ça. Moi, j'ai des amis qui ont fait le programme de gestion d'entreprise à Victo. Puis, tu sais, ils sont autant outillés que moi au niveau de la production et en plus avec la gestion.
Puis au niveau entrepreneurial, est-ce qu'il y a des bourses qui sont attitrées aux finissants ou encore là, à la relève qui veulent soit reprendre une ferme déjà existante ou s'acquérir d'un lot de terres?
Il y a des subventions quand tu finis ton programme. Je me rappelle pas du titre, là, mais je pense que c'est établissement ou prime à l'établissement, quelque chose comme ça. Quand tu as fait une technique, moi, je sais que j'ai un genre de subvention de 50 000, je pense, qui est accessible, mais il faut que j'aie déjà accès à une terre. Souvent, ça va être une subvention qui va être coupée en deux. On va avoir la moitié au début. Puis s'ils voient que l'entreprise est durable puis rapporte, ils vont donner l'autre moitié. Il y a quand même aussi des règlements à suivre. Là. Tu peux pas, faut t'acheter beaucoup d'équipements neufs. Tu peux pas décider d'acheter un tracteur usagé. Faut que tu l'achètes neuf. Puis tu peux pas leur vendre pour refaire de l'argent par après. C'est plein de petites technicalités comme ça là, qui va être à suivre si tu veux avoir accès à la bourse, mais il y a possibilité. Puis en agriculture, de plus en plus, il y a beaucoup de subventions au niveau gouvernemental là, pour nous aider. Là. Récemment, il y a des programmes là, pour les gens qui veulent partir des serres. Ils vont venir aider pour les systèmes de chauffage puis tout ça, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est assez économiquement volumineux.
On en a parlé un petit peu tantôt au niveau du placement. Là, tu disais que c'était quand même assez facile là, de trouver un emploi. J'aurais envie de te demander, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent faciliter cette intégration-là ou qui peuvent au contraire nuire à l'intégration sur le marché du travail après les études?
Je pense que l'expérience de travail va venir aider beaucoup. Plus tu as d'expérience, plus les gens vont être enclins à te prendre. Mais encore là, comme je disais, il manque souvent de monde dans le domaine agricole. Fait que les gens sont quand même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as pas d'études là-dedans, souvent les gens vont te prendre quand même sous leurs ailes puis ils vont te montrer ce qu'ils ont à te montrer, vu que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. C'est sûr qu'à ce niveau-là, si tu n'as pas les études, le vouloir d'apprendre, tu n'auras sûrement pas de poste de gestion, là, mais c'est possible de travailler sur une ferme quand même. Je crois pas qu'il y a rien qui peut nuire, mais des études au niveau agronomique, ça peut aider au niveau des clubs conseils, comme je disais tout à l'heure, autant aussi au niveau d'une entreprise maraîchère régulière.
On arrive pas mal à la fin, là, la dernière question de notre discussion aujourd'hui. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a eu des impacts, la situation de la pandémie, est-ce que ça a eu des impacts sur ton métier, le domaine? Puis est-ce que tu penses que ça va avoir des effets là, également à long terme?
Oui, il y a eu des impacts quand même assez grands même. Les gens se sont rendus compte de l'importance, je pense, de manger local, de manger aussi à proximité. Je pense que les gens ont eu peur aussi de qu'on soit plus capable de s'approvisionner comme à l'extérieur. Puis ils se sont rendus compte que c'était ça l'important, en fait, c'est d'encourager notre économie locale, d'encourager notre monde. Puis je pense que cette prise de conscience-là est là pour rester. Puis je le souhaite, en fait. Je trouve ça vraiment beau que les gens aient compris ça. Ça faisait comme longtemps qu'on essayait de l'éduquer aux gens puis de leur montrer. Puis je pense que la pandémie, ça a été comme un bon mur qu'on a pogné pour que les gens comprennent un peu tout ça. Fait que ça veut pas, ça l'a amené que les gens voulaient s'abonner beaucoup plus, autant au panier qu'à d'autres types d'abonnements. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de listes d'attente à plusieurs fermes là, qui sont même pas capables de fournir les paniers que le monde voudrait. Fait que ça, je trouve ça beau. J'espère vraiment que ça va rester, que les gens vont continuer à s'abonner, puis ils vont continuer à vouloir comme manger local, puis s'approvisionner dans des circuits courts, là, t'sais, on veut moins de voyagement, moins de transport, en fait, de légumes. On veut des produits qui sont frais, des produits qui sont bio aussi. Puis on dirait que les gens se sont rendus compte que les pesticides, toutes ces choses-là, ça revenait quand même dans leurs aliments, puis que c'était pas bon, pas sain pour eux. Fait qu'ils voulaient de plus en plus aller vers quelque chose de plus santé pour justement avoir un système prêt à combattre un peu plus tout. On dirait que ça leur a fait peur, le virus. Fait qu'ils étaient comme, on veut être bien alimenté pour avoir la capacité de combattre ça. Fait qu'encore là, j'espère que ça va rester cette belle vision-là d'aller chercher des aliments sains pour nous, puis d'encourager notre monde. C'est pas mal ça l'impact que ça a eu, là. Beaucoup, beaucoup plus d'abonnements. Les gens... Il y a eu comme une petite baisse, je pense, des abonnements pendant un certain temps. On dirait que ça l'avait fait un gros boom, puis là, c'était comme en train de redescendre, puis avec la pandémie, ça l'a comme remonté puis repris de la vigueur.
C'est ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Écoute, Maggie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment super intéressant.
Ça fut un grand plaisir.
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado. Restez à l'affût.